Buenos dias, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Le Point Vendano, le show 100% débat.
Live. Je prends la question en deux secondes. Pour un nouvel épisode du Le Point Vendano, live encore une fois, juste nous deux, cette fois-ci. Fred, comment ça va?
Ça va pas mal, ça va pas mal. Écoute, l'AC Milan est sur un streak de victoire. C'est inespéré. On va peut-être avoir une place en Europe. Non, il ne faut pas se faire trop d'espoir, mais bon, on ne sait jamais. Gros match cet après-midi, donc à voir. Toi, Alec, le Barça est compliqué un peu, hein?
Bah, dès qu'on a fait les trois matchs nuls ou quatre matchs nuls de suite, pour moi, c'était assez réglé. Il ne faut pas se permettre de faire ça en fin de saison. Mais là, le pire, c'est que ça joue un petit peu mieux. Là, on dirait que Setién a réussi à trouver peut-être la place à Griezmann. Messi joue numéro 10. Ça va un petit peu mieux. Mais après, je pense que le Barça a pas l'effectif pour faire des matchs tous les trois jours. Je pense qu'ils sont un peu, ça commence à être vieux. Comme la Lazio en Serie A, là, qu'ils ont complètement crash parce que les gars, ils n'ont pas l'effectif pour ça. C'est un peu le même principe, je pense.
Ah, puis là, de ce que j'ai compris, Griezmann a été diagnostiqué d'une blessure qu'il ferait manquer le reste de la saison. Donc, pour vous, ça ne s'annonce pas bien.
Exactement, ouais, ça fait mal, mais bon.
Écoute, il n'y a pas juste le Barça qui ne va pas super bien. Il y a la MLS en général. Et, ouf, on a encore eu un match annulé, en fait, reporté ce matin, qui devait avoir lieu TFC contre DC United. DC United avait annoncé son 11 partant, les gars étaient prêts à faire leur entrée, tout ça. Puis, bon, on aurait possiblement un cas du côté TFC, tout ça. Donc, le match a été reporté. Quand même assez fou là, qu'on ait droit à un match reporté à quelques minutes, voire une heure là, de l'événement. Là.
Clairement. Surtout quand t'es déjà en place là-bas. T'sais, on dirait un scénario qui m'a fait... rappeler la NBA quand ça venait de commencer, genre, tu sais, le docteur qui court, puis comme, gars, il faut arrêter. Mais là, ça fait, ton plan est déjà établi, déjà en place. Pour moi, ça fait pas sérieux du tout, en fait. Dans les autres ligues, c'est jamais arrivé de reporter un match quelques minutes avant. Pour moi, ça paraît super mal. Super, super mal, puis ça fait peur. Hein. Moi, si je suis un joueur dans le tournoi, ça me fait un peu peur. Hein.
Ah, puis surtout Toronto, je ne sais pas si on se rappelle, Toronto était quand même assez sceptique à vouloir venir participer au tournoi. Je sais que le médecin de l'équipe était vraiment pas d'accord avec le fait que l'équipe se joigne à tout ça. Là, on a ce cas-là qui confirme, inconfirmé. Bref, des soupçons, il y a des raisons pour ça, puis c'est correct aussi. Match reporté. Est-ce que tu le vois, bon, si on se concentre strictement sur le point de vue de l'impact, est-ce que tu penses que c'est un point positif ou négatif le fait que justement cette équipe-là devait jouer aujourd'hui et devait jouer cette semaine en milieu de semaine contre l'impact?
Ouais, pour l'impact, c'est dur à dire en fait. Pour l'impact, je ne sais pas trop quoi penser. C'est positif dans le sportif, dans le sens que je pense que Toronto, ils vont vouloir, je pense, partir le plus tôt possible. Je pense que les gars vont être full motivés. Ils doivent être stressés un peu. Après, c'est dur de voir le côté sportif. Je pense que l'impact va juste être stressé de jouer contre Toronto. Tout le monde va être stressé de jouer contre Toronto. Ben ouais, je pense que ça peut être positif dans le sens où les gars, tu sais, justement, s'il y a un conflit dans l'équipe pour savoir si on doit être là ou non, t'es pas dans les conditions, je pense, pour faire un tournoi à 100%. Fait que ça, oui, ça pourrait jouer en faveur de l'impact.
À voir. Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé la semaine passée, il n'y avait que Dallas qui était, bon, officiellement retiré du tournoi. Il y a Nashville qui s'est ajouté avec d'autres cas confirmés, tout ça. Bon, ça ne me surprendrait pas de voir d'autres équipes. On sait que Vancouver, bon, ils ont pas amené leur gros canon aussi, bon, parce qu'il y avait certaines craintes et tout ça. Et là, on
Exact.
regarde, j'ai vu un tweet passer de Richie Cannon, qui est un joueur de DC United, l'international américain, qui faisait allusion à probablement un sac de croustilles qui serait la raison de l'épidémie chez
Ouais.
Dallas, le FC Dallas. C'est quand même assez cocasse, là.
Ouais, non, j'ai vu ça, je trouvais ça assez fou aussi, là. Mais après, non, c'est ridicule. Enfin, la raison, c'est juste que le plan était faillible, en fait, de la MLS. Il était loin d'être assez solide. Puis là, c'est ce qu'on voit. Puis c'est risible, en fait.
Est-ce que tu penses que justement avec ce qu'on voit actuellement, je pense que c'était assez clair dans le plan de la MLS qu'après bon, les trois matchs qui comptent, on sera en finale du tournoi pour de l'argent, évidemment, bon, un trophée en carton, peu importe. Mais par la suite, on voulait poursuivre bon, la saison dans les marchés réguliers où les matchs devaient plus ou moins avoir lieu, avoir un semblant de saison. Est-ce que tu commences à douter que. Avec les cas qui sont de plus en plus intenses aux États-Unis, est-ce que tu penses que c'est une possibilité qu'on ait vraiment une vraie saison, du moins le plan initial de la MLS après ce tournoi qui devait se terminer là, au mois d'août?
Clairement, c'est un bon point que tu amènes, puis ouais, en fait, ça fait douter énormément, en fait, surtout pour certains endroits, certaines équipes aux États-Unis. Tu sais, justement, ben, Orlando, par exemple, ça va être difficile pour eux de rejouer, là, tu sais, parce comme, il y avait un bon point sur Twitter que je pense que c'est Sergio qui l'avait amené, qui disait que, tu sais, en Europe, les gars, ils voyagent partout et il n'y a aucun cas. Ici, on est tous dans une bulle, puis il y a des cas qui explosent. Genre, tu imagines si on devait voyager. Je pense que la MLS n'a pas rassuré le monde avec le tournoi, au contraire. Et oui, je pense que ça va effectivement faire douter pour le reste de la saison, comme autant les dirigeants que les équipes, les staffs d'équipe, comme le gars de Toronto qui voulait pas y aller. Je pense pas qu'il va vouloir continuer la saison puis voyager dans 2 mois. Surtout si deuxième vague il y a dans 2 mois, ou à quel point elle va être forte plutôt. Oui, absolument, ça met tout en doute encore.
Ça se posait la question, est-ce qu'on. Bon, c'est tellement facile après coup, mais est-ce qu'on aurait peut-être pu attendre quelques semaines, voire quelques mois, et s'assurer que tout soit correct? Évidemment, il y a tout l'enjeu des commanditaires et l'argent qui a été dépensé, là. Justement, on le voit depuis le début du tournoi avec le gros logo MLS. Qui est inséré au centre du terrain. Les équipes, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, ont tous un commanditaire supplémentaire sur la manche. Ça semble être les commanditaires locaux, là, que ce soit bon. Dans le cas de l'Impact, c'était Saputo et dans le cas de leur adversaire, c'était Gillette qui est le propriétaire également de cette équipe-là. Donc, en fait, commanditaire principal de cette équipe-là. Assez cocasse comme truc. Puis justement, bon, on poursuit dans la cocasserie, la qualité des matchs. Bon, le premier match qui avait lieu, je pense que tu as sûrement regardé un petit peu, qui était Orlando contre Miami. C'était vraiment un match de qualité pré-saison, puis c'était très bon. Je pense que, bon, surtout Miami avec un effectif nouveau, du moins des joueurs qui ne se connaissent pas depuis au moins 1 an et 18 mois, voire. Comment tu as vu bon, le premier match, la qualité des matchs en général, avant de rentrer là, dans celui qui est opposé à l'Impact? Et son adversaire.
Celui d'Orlando Miami, c'était un bon match parce que les deux équipes étaient comme au même niveau, mais clairement, c'était un match de pré-saison. Il y avait beaucoup de déchets. Physiquement, les gars, ils sont pas top non plus. Il a l'air de faire super chaud en plus. Donc, ouais, c'était pré-saison, comme tu as dit. En plus, avec le fait qu'il n'y ait pas de foule, t'entends les coachs parler, c'était vraiment, vraiment pré-saison. Après, c'est normal, les gars, ça fait quelques jours qu'ils sont là-bas, ben, pour Miami. Tu sais, je veux dire, en Europe, les premiers matchs, même si tu regardes le Real Madrid, si tu regardes quand on regardait le Bayern, les plus grosses équipes du monde, ça avait l'air des matchs pré-saison au début. Et ils avaient eu plus de temps pour s'entraîner quand MLS. Fait que c'était très, très prévisible. Mais c'était, en fait, le premier match, c'était bien finalement, parce que les deux équipes étaient comme au même stade plutôt. Et moi, ouais, j'ai bien aimé après le but de Nani à la fin et tout ça te laisse un peu sur une bonne fin de match. Donc ouais, j'ai bien aimé, en fait. C'était un bon match, mais oui, il y avait beaucoup de déchets techniques, effectivement.
Puis aussi, tu sais, quand on regarde les équipes en Europe, il y avait au moins une vingtaine de matchs joués, tu sais, un peu plus, un peu moins, dépendamment des ligues, là. La MLS, bon, si on regardait Orlando, Miami, si je me rappelle bien, c'était seulement leur troisième match officiel. Tu sais, t'as pas eu le temps de former une cohésion, surtout du côté de Miami, qui est un nouveau groupe de joueurs.
Exact.
Donc, fallait s'y attendre. Si on regarde plus au niveau du match de l'Impact de Montréal contre les Revolution, je pense que l'Impact de Montréal, ça a paru un peu plus qu'on a eu pratiquement une semaine de moins d'entraînement que l'équipe adverse. Là. Strictement au niveau de la forme physique, right?
Clairement, clairement. Puis même tactiquement, tout ce qu'on avait peut-être construit au début, ça paraissait plus. C'est comme si on l'avait perdu. Après, comme tu dis, si là, physiquement, t'es pas là, tu peux pas tenir une tactique rigide vraiment. Là. Surtout elle de Thierry Henry au début, où ça bougeait beaucoup, où les gars avaient beaucoup d'automatisme. Si comme tu me dis, la semaine de moins, là, on l'a senti, là. Et ouais, à part quelques personnes, je pense que bon, physiquement, c'est des naturels comme Wanyama, par exemple. Ça avait le pied, ça avait l'air en forme aussi, mais ouais, effectivement, c'était moins. Après, on parle beaucoup de la volonté des joueurs. Je pense que c'était aussi l'effort physique qui était plus difficile, qui était moins prêt, en fait, dans des meilleures, dans des moins bonnes conditions pour le donner, le fameux 100%, là. Mais
Ah,
ouais, ça s'est senti
clairement.
clairement.
Clairement, puis tu sais, je pense à ça, mais je me dis les équipes qui vont jouer 3 matchs, puis après ça, qui vont devoir quitter. Et si on a prolongé le délai entre la reprise de la saison et la fin du tournoi, ce serait une catastrophe. Encore une fois, dans un autre temps de reprise, je vais mieux pas y penser. Si on regarde un peu, bon, l'Impact s'est incliné 1-0. Un but mérité, je pense que l'Evolution a quand même dominé. La première demi, c'était une catastrophe, là. On voyait, pour des équipes, on a vu les 3 joueurs désignés du Revolution vraiment dominer l'Impact de Montréal. Premièrement, on regarde strictement le schéma tactique de la première demi. On sait que Thierry Henry s'ajustait en deuxième demi, puis vraiment, début deuxième demi, malheureusement, c'est là qu'on encaisse le but, mais l'Impact avait quand même repris le dessus. Mais si tu regardes juste le schéma, est-ce que tu as été surpris justement de voir ce schéma-là en début de match?
Ouais, c'est assez surprenant, surtout quand on sait que bon, Henri, il aime beaucoup les apports de ses latéraux. Et là, avec la balle, t'avais Piette, latéral, genre de latéral droit, et Retella, genre de latéral gauche, qui revient d'une blessure, qui monte pas du tout, fait que les deux apportaient rien devant. Donc ça m'a un peu surpris. Donc j'ai pas trop compris. Et sur le terrain, ça l'a confirmé les doutes de tout le monde, je pense là, ça marche pas très bien. Je pense que l'idée était pas mauvaise. J'aimais le fait de changer avec balle ou sans ballon. C'est le genre de truc qu'on voit pas trop à l'impact, le genre de tactique comme ça.
En MLS en général, carrément.
Ouais,
Je trouve
non, c'est vrai. C'est vrai.
que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il n'y a pas énormément d'équipes. Il y a quelques entraîneurs, je te dirais, peut-être ça se compte sur le doigt d'une main, peut-être 5 entraîneurs qui vont avoir un schéma vraiment différent, comme on a vu l'Impact avec et sans ballon.
Ouais, non, c'est clair. Puis ouais, j'ai un peu endormi, c'est juste, j'ai comme mon éclairage, mais il est comme dans ma face, dans mes yeux. Je sais pas si ça change un peu ça. Mais ouais, non, clairement. Puis ça, c'est intéressant parce que j'aime voir les coachs essayer. T'sais, on critique souvent les entraîneurs, mais pour une fois, j'ai aimé que Thierry Henry, que c'est un truc différent. Ça n'a pas marché. Il a flippé en deuxième mi-temps, puis ça a super bien marché, son ajustement tactique. Donc
Ouais.
ça, je trouvais ça intéressant aussi, enfin.
Ah, vraiment, on a vu les qualités d'adaptation. Est-ce que tu penses que peut-être le schéma, justement, la façon qu'on a indiqué les consignes aux joueurs, est-ce que l'effectif a le soccer IQ pour être capable de soutenir ça sur la durée, en fait?
Excuse-moi, ça l'a bugué un peu. J'ai pas
Je
entendu.
demandais si est-ce que le schéma tactique, Thierry Henry, donc c'est ça ce que je demandais, c'est l'impact donc a utilisé quand même un schéma intéressant. Henry a quand même osé, mais
Ouais.
est-ce que tu penses que l'effectif a le soccer IQ pour conserver puis maintenir ça sur la durée?
Ça, c'est une bonne question. En fait, je pense que tu viens de me faire comme avoir une idée. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a mis Piette là. Parce que s'il y a un gars qui a un bon soccer IQ pour être versatile tactiquement, c'est lui. Et je pense que ça, c'était intéressant. On le voyait, puis il attendait qu'il devait aller en latéral droit, en guillemets. Là, il prenait vraiment la largeur du terrain tout le temps, toujours de la bonne façon. Après, il est pas habitué à être dans cette zone-là, puis se tourner vers l'avant d'une certaine façon, ou de jouer. Puis Okonkwo l'a pas aidé du tout. Mais justement, des gars comme Okonkwo, comme Boyan, ou Routy, c'était difficile, ça bougeait pas trop devant, ça n'avait pas trop pièce, ça n'avait pas trop entré non plus. Donc oui, je pense qu'Henri fait bien doser. Après, surtout avec le peu d'entraînement qu'il y a eu, comme tu as dit, ça serait difficile d'arriver puis de faire genre un pep de là avec l'impact. Ça
Non.
prend du temps. Au début de l'année, ça marchait super bien. Là, oui, je pense qu'à trop court terme comme ça va être difficile. Ouais.
Bon, en même temps, on va revenir, mais en début d'année, on avait des vrais latéraux qui étaient capables de monter avec Corrales puis avec Broglia. Là, on
Ouais.
était quand même avec Raetala qui avait une blessure, qui n'est pas un joueur qui est excessivement explosif avec le ballon de haut sur le terrain. Et Piet, ben écoute, Piet, c'est pas de sa faute, mais
Exact, exact.
c'est pas un joueur de couloir depuis 20 ans. Donc, c'est
C'est
assez
clair.
normal que c'était différent. Si on poursuit, bon. Évidemment, on salue la mairesse Plante pour avoir permis à l'Impact de Montréal de s'entraîner un peu plus tard que tout le monde. Donc, ça a vraiment paru dans ce match-là. On regarde les stats. Le Revolution a quand même 19 tirs au but. Je pense que Diop, à part une fois, il y a eu la foule. On a vécu un gelard de
Ah,
foin. Mais sinon, est-ce qu'on peut blâmer pour avoir accordé le but? Puis, en général, sa prestation, encore une fois, je pense qu'il prouve qu'il a la qualité d'être un numéro un. Mais
ouais.
19 tirs accordés, évidemment, c'est trop. Où tu vois la faiblesse de l'Impact dans ce match-là qui a fait en sorte que les Rebs ont réussi à tirer 19 fois au but?
Je pense, en fait, c'était, on parlait de conditions physiques. Je pense que c'est un mélange de ça et de volonté. Je pense que, en MLS, dans les matchs comme ça, surtout à ce stade-là, la différence, c'est quelle équipe, quel joueur a plus faim. Qui va se battre plus pour le ballon? C'est le fameux deuxième ballon, le ballon qui retombe, le ballon qui n'est pas vraiment en position d'une équipe ou l'autre. Puis Revolution était juste plus physique, plus intense. Le but, de Revolution, il contrôle, il se tourne, il frappe, puis nous, on est un peu, on le regarde, on sait pas trop qui va ou non, on a quand même trois centraux. Aucun d'entre eux est allé. Aucun d'entre eux est vraiment allé. Nous, dès qu'on avait la balle de leur côté, eux, ils avaient beaucoup plus faim pour nous enlever la balle. Et aussi, défensivement, c'est vrai qu'on accorde beaucoup de tirs au but, comme tu as dit. On n'arrive pas à tenir la balle non plus. On dirait qu'on subit. On a le réflexe de l'impact, on dirait, de dès que ça marche pas bien, on subit, on subit, on subit. Et surtout là, dans les matchs où peut-être, je sais pas, je pense pas qu'ils sont encore habitués au climat. Je pense pas qu'ils sont encore habitués à ces efforts-là. Je pense que c'était surtout ça. Et tactiquement, c'était déjà défensivement, comme tu n'avais pas de 6, on dirait que les centraux, ils ne savaient pas s'ils devaient monter ou non, que ça crée un gros espace pour le 10, Carletril, qui faisait pas ce qu'il voulait. Donc, je pense tactiquement, première mi-temps, c'était un petit peu une grosse erreur. Même grosse erreur de Thierry, oui. Après, je pense que c'était juste mentalement, les gars n'étaient pas prêts à vraiment y aller et se donner à 100%. Là.
Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que la théorie était là, mais la pratique, bon, ça peut bien être. Bon, justement, on a Téléroulo qui nous parle, bon, qui dit, je suis inquiet au niveau offensif pour l'Impact de Montréal. Bon, il y a beaucoup de points d'interrogation dans notre attaque. Justement, si on commence l'évaluation de l'effectif, bon, on demande un attaquant de marquer. Bon, Auti a eu l'occasion pour marquer. Honnêtement, grosse sortie du gardien. Personnellement, je peux pas vraiment le blâmer là-dessus. Il a fait la course nécessaire. Le reste, assez absent. Performance moyenne dans les circonstances, Alec?
Ouais, bah fait, ouais, c'est ça. Comme tu as dit, après, il y a eu sa chance, la grosse chance. Il l'a raté. C'était la volée, peut-être, qui suit après. Moi, je pense qu'il aurait dû l'en marquer. Puis, on se prend un but, je pense, 2 minutes après. Mais il n'y a pas eu beaucoup de chance. Après, Urruti peut pas créer des chances non plus. Hein.
Non.
Fait qu'il était un peu tout seul. Un peu comme, je pense qu'on pourrait dire la même chose pour lui, Okonkwo et Boyan. Les gars, ils créent rien, en fait. Ils ont pas créé quelque chose. Est-ce que c'est tactiquement qu'offensivement, on n'a peut-être pas un plan? Plus clair, parce que bon, les joueurs, j'ai pas vu beaucoup de combinaisons devant, offensivement, en fait. Donc.
Non. Non, mais l'apport des latéraux, on l'a vu dans les matchs, surtout en Ligue des Champions, c'était le point important pour l'offensive. On voyait souvent justement Corrales et Isaac qui étaient hyper hauts sur le terrain, faisaient des combinaisons avec les ailiers, puis ça nous donnait des occasions là. C'était absent. Bon, justement, c'est Piet qui se place toujours bien pour recevoir le ballon, qui a fait la belle passe à Routy sur l'occasion. Mais on reste à là, ça a été catastrophe. On va reparler un peu plus tard, mais donc plus compliqué. Pour moi, le plus gros point d'interrogation, et c'est un débat que Nathan a lancé, à savoir, bon, Boyan, honnêtement, moi, c'est le plus gros point d'interrogation. On en a parlé ensemble, Alex. Je pense que son apport, je pense que je pense pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense qu'en ce moment, dans l'effectif, c'est un problème. Répondons premièrement au débat de Nathan. Est-ce que Boyan apporte plus sportivement que Nani? La réponse est clairement non.
Clairement, non. Tout le monde prend Nani devant Boyan, je crois. Tout le monde. Je veux dire,
Parfait.
Nani fait la différence sur le terrain, je me suis dit.
Ça,
Boyan.
c'est réglé. Puis ça, écoute, c'est question de contact. Bon, il y a eu la chance d'aller dans un
Ouais.
marché X. Bon, merci, bonsoir, c'est réglé. Si on va vers le cas de Boyan, dans ce match-là, on fait reculer les défenseurs à quelques occasions avec des montées. Mais après ça, rien du tout. Pas une passe intéressante. Ça a presque pas paru que c'est un joueur qui a quand même un CV international et de haut niveau, là, techniquement.
Clairement, tu regardes Boyan, des fois je regardais Boyan puis tu te dis c'est lui qui a battu tous les records de Messi en équipe de jeunes gens. Incroyable. En tant que neuf, en faux neuf, il jouait à l'époque. Et sur le terrain, t'as pas l'impression qu'il y a déjà eu ce talent-là, qu'il y a déjà eu cette capacité de faire la différence. Parce que moi, je vais faire mon Hilton et Sofiane, ce que je disais au début, c'est que Boyan, c'est pas le genre de joueur qui va faire une différence à lui tout seul. C'est juste, c'est pas lui, c'est pas son style de jeu. Il a du talent, c'est le gars qui va jamais rater une passe, qui va jamais rater ses contrôles, qui quand tout va bien, il va juste aider à que tout va bien dans l'équipe. La circulation, il va l'aider, il va la rendre fluide et tout. Mais c'est pas un, tu sais, Giovinco, pour moi, c'est le meilleur exemple de joueur désigné ou un Bikin ou whatever, que de nulle part, de n'importe où, il peut lui faire gagner un match. Que l'équipe joue mal ou non. Boyan, c'est pas ce gars-là. Boyan, c'est pas, en un contre un, il est pas capable d'éliminer les gars, il fait pas de passe, brise les lignes, tu sais. Et pour un joueur désigné, c'est pour ça que moi, je n'étais pas super excité, parce qu'en MLS, tu as besoin que ton joueur désigné, il fasse la différence. Tu as besoin qu'il gagne des matchs sous des fois à lui tout seul, là. Comme Piatti.
Je
Puis
pense que
ouais,
Boyan,
c'est décevant. Hein.
c'est une bonne idée sur papier, mais moi, c'est surtout qu'il peut. On dirait que sa position n'existe pas dans le schéma de Thierry Henry. Justement, tu parles de faux
Okay.
neuf. Il demande tellement à ses milieux de terrain et à ses ailiers que le faux neuf, sert à rien, ultimement, là.
Après, faux neuf, c'est cool quand tu joues avec Thierry Henry, avec Xavi Iniesta, avec Eto'o, avec mes genres. Tu peux pas mettre faux neuf dans toutes les équipes. Ça prend que quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ça peut pas toujours arriver. Hein.
Évidemment, bon, la saison est jeune encore. Je pense qu'il va avoir encore le temps de s'ajuster. Il faut lui donner le bénéfice du doute, comme tout le monde. Le
Ouais,
physique
toujours.
n'est peut-être pas là. La concentration n'est peut-être pas encore là. Donc, mais clairement, un point d'interrogation, clairement. Si on bascule sur l'autre aile, bon, c'est Okonkwo qui a débuté le match. Okonkwo a essayé de faire 27 grands ponts. Écoute, on a vu clairement que bah, il n'y avait pas de pied gauche. Puis c'est ça. Pourtant, un joueur quand on lui donne l'espace assez dominant et capable de battre les joueurs physiquement, là, pas son jour, n'est-ce pas?
C'est clair, c'est bizarre parce que autant l'année passée, on pouvait dire qu'il bon, il était pas constant, il s'adaptait, mais au début de l'année, il était toujours bon. Tu sais, il faisait plus vraiment de mauvais matchs. Bon, il n'y a pas eu énormément de matchs non plus. Mais à chaque fois qu'il rentrait, à chaque action, il semblait plus intelligent, plus mature. Et là, ce match-là, c'était comme un petit peu un retour en arrière. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un joueur qui a besoin de trouver son rythme, qui a besoin d'être en confiance, d'être 100% prêt, parce qu'il joue beaucoup sur son physique. Comme tu l'as dit, là, ses grands ponts, c'était pas les grands ponts les plus classe non plus, là. C'est juste qu'il tape la balle, puis bon, il bat physiquement le gars. Puis on
Il a
dirait
fait
qu'il était
énormément
un
de
peu hors
fautes.
rythme. Ouais, ah oui, absolument. T'as raison. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il était à 5 à la mi-temps, un truc comme ça, quand ils ont sorti. Puis ouais, beaucoup de fautes. Puis c'est, pour moi, les fautes, c'est qu'il est en retard. C'est quand les genres de fautes qu'il a fait, c'est à chaque fois qu'il est en retard dans son repli ou qu'il a perdu la balle juste avant, puis qu'il est fâché, il fait une faute. Mais ouais, non, pas du tout son match. Mais en fait, c'est le genre de match où tu regardes Okonkwo ou Boyan, c'est comme, c'est un point d'interrogation, comme tu sais.
Clairement, clairement. Bon, si on va au milieu de terrain, je commencerai par Taider, bon, je me rappelle même pas qu'il a joué personnellement.
Non, c'est vrai. Il n'a pas été mauvais.
Non,
Après, on en demande
mais.
toujours plus. T'sais. On aimerait avoir un petit peu plus de talent. Parce qu'en fait, si, il est décisif devant. Il y a deux occasions, il pense qu'il peut la donner à Wanyama ou il la donne pas, puis Wanyama et les deux il a réagi.
C'est vrai, c'est vrai.
Si, mettons, il est décisif là, son match est excellent, dans le sens qu'il fait pas d'erreur. Comme oui, il couvre son terrain. Il fait bien Wanyama pour ça. Wanyama, il peut un peu le baquer. Mais on attend un petit peu plus de Taylor, mais c'est loin d'être le pire sur la terre, tout ça.
Clairement, clairement, je pense que tu as raison, pas fait d'erreur, pas c'est vrai qu'à certains moments aurait pu quand même être décisif. Faut mettre ça sur l'ajustement, c'est clair. Encore une fois, je pense que c'est un milieu de terrain qui était différent. On jouait à deux alors que d'habituellement, bon, c'est un peu, on divise le terrain de façon différente. Donc, à voir, une note somme toute moyenne, mais rien de catastrophique dans son cas. Je pense que le temps va le remettre
Clairement.
dans de bonnes grâces. Si on poursuit, bon, Wanyama en 8, en 6, en quoi? Bon, a quand même bien paru. On a vu que le gars savait jouer. J'ai eu l'impression que c'était le grand frère qui jouait avec les plus jeunes. Mais en même temps, on aurait dit aussi que cela coulait douce quand même.
Ouais, c'est vrai. Surtout au début, que quand il a mis comme deux, trois coups d'épaule, puis les gars ont volé, là, c'est comme, waouh, lui, il est là, genre, il a passé son message. Après, ouais, c'est vrai que dans certaines actions, encore une fois, je sais pas si c'est physiquement ou c'est juste lui, son langage corporel, c'est vrai qu'il avait l'air de, il faisait penser un peu à Yaya Touré à la fin, là, puis quand il marche un peu, il jogue. C'est pour ça que mettre pied, je pense, derrière lui, puis laisser Taider à Wanyama, peut-être de séparer à gauche, à droite, ça pourrait être intéressant. Mais ouais, non, je trouvais très bon. Tu vois qu'il y a une coche en haut, en fait. Tu vois qu'il pourrait être excellent même. Ça pourrait être le gars qui fait la différence. Puis très, très bonne recrue, rien à dire. Faut juste espérer que son genou il tienne maintenant. Mais s'il est en forme pour 80%, 70% des matchs, excellente recrue.
C'est clair, on l'a vu qu'il a bien dirigé le ballon, il a quand même fait le travail en récupération. Écoute, ça protège le ballon avec son corps vraiment, vraiment bien fait. Mais on dirait que dans ce match-là, si on jouait à FIFA, il y avait 32 de speed, là.
Ouais. Mais ça m'a un peu inquiété, en fait. Ça m'a un peu inquiété. Il me semble que dans les autres matchs, on ne voyait pas tant la distance.
Non,
Là,
non,
c'est
c'est
comment?
quand en Ligue des Champions, on a vu, tu sais, un gars physique qui était là. On
Ouais.
a vu qu'il s'est quand même un peu géré, là. Je me rappelle, c'était bon,
Ouais.
mais on le voyait faire ses courses. Je pense encore une fois, c'est un gars qui, avec la remise en forme et tout ça, ça va mieux aller.
Clairement.
Je pense que plusieurs on l'ont eu comme coup de cœur, comme Saputo d'or. On y
Absolument.
reviendra, mais je pense qu'il a fait quand même une bonne impression dans ce match-là quand on compare là, au reste du clan. Bon, l'autre joueur qui a joué avec possession de ballon comme milieu de terrain slash latéral, sans possession de ballon, un peu plus latéral. Bon, bref, c'est Samuel Piette. Samuel Piette, on en a parlé au début de cette intervention-là, a quand même fait la passe qui aurait pu être décisive.
Ouais.
On l'a peut-être senti un peu mélangé dans les consignes. Je pense que c'est peut-être pas là où il a joué dans ce match-là qui était la meilleure façon de l'utiliser, mais un bon match dans l'ensemble, je pense.
Ouais, je pense qu'il a fait un très bon match. Je pense qu'il a fait exactement ce qu'on lui demande qu'il est capable de faire, en fait. C'est quand tu vois qu'il. Mais sa passe, elle est exceptionnelle, hein? Mais. Alors, puis il est dans l'axe. Tu vois que dans l'axe aussi, il était vraiment meilleur dans l'axe. Quand il était à droite, tous les sorties de balle, il nous aidait bien. Ça me fait penser un peu à un Sergi Roberto qu'on avait mis à droite. C'est un gars qui est capable de contrôler, se tourner, puis faire une belle passe. On le met à droite pour sortir d'une autre zone du terrain. Mais dans le dernier tiers, là, il perdait trois ballons sur quatre. Puis encore une fois, c'est pas de sa faute. C'est une zone qu'il est pas habitué d'être. Okonkwo, il l'avait pas trop non plus. Il y a deux, trois fois qu'il a dit au gars, genre, dites-moi quand il y a quelqu'un. Ne le dites pas, il est dans mon dos, il s'est enlevé la balle. Mais Piet, c'est le genre de gars que tu vas le faire jouer partout, puis il va se donner à fond, puis il va faire le meilleur qu'il peut. C'est le meilleur de tes capacités, il va te le donner tout le temps. C'est que c'est dur de le critiquer. J'ai adoré son match. Adoré, en fait. Bon, il a fait ce qu'il devait nous donner, peut-être. Mais balle au pied, première mi-temps, quand il était à droite, c'était difficile.
Ah, puis, tu sais, au même titre, je pense qu'on mettrait un Wanyama sur l'aile. Le fait d'avoir moins d'espace, puis qu'on soit bloqué par un côté généralement, le côté de l'aile où on évolue pour se tourner, je trouve que rapidement, la passe sortait à Okonkwo, ce qu'on veut, parce qu'on veut exploiter les flèches. Mais en même temps, je le voyais pas nécessairement être capable de monter beaucoup de balles au pied. T'sais, Sam, c'est un gars qu'on voit souvent. Il est face au gardien, prend le ballon, tourne, lève la tête, la passe est partie. Puis généralement, il va faire peut-être un 5 mètres, un 10 mètres au maximum. Puis ça, c'est son action. Puis c'est parfait. C'est ça qu'on lui a toujours demandé. Surtout à garde. Il prend le ballon, boum, lève la tête, merci, on y va. T'sais. Fait que j'ai vu ces réflexes-là dans ses
Ouais, c'est ça,
interventions.
exact.
Mais comme tu as dit, quand même un bon match. Écoute, il y a rien à dire. Puis même chose. On le fait jouer. Je pense que c'est le statisticien de TVA Sport qui disait qu'il avait déjà joué deux matchs comme latéral droit en équipe canadienne. Je
Ouais,
pense que c'était junior, tout ça. Ben, tant mieux, ça a sûrement aidé, mais on voit que bon, je pense que
ça.
c'est une adaptation quand même dernière minute.
C'est
J'aimerais
ça.
ça comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Zach pour que.
Ouais, moi
En
aussi,
tout
en fait. J'ai pas, je me suis dit, si t'as personne, ok, tu bricoles, mais t'avais Broguillard, je peux
cas.
compris non plus.
On voulait essayer peut-être quelque chose, c'est sûr que bon. C'était peut-être le
Ouais.
bon moment, hein? C'était le bon
Ouais.
moment de tester. Bon, si on regarde la charnière défensive, il y a des bons et il y a des moins bons dans cet élément-là. Le moins bon, clairement, c'est Raetala qui a manqué de lucidité là, à 150 occasions. C'est même lui qui, haut sur le terrain, fait la passe, qui bon, vont mener ultimement à l'occasion du Revolution et vont marquer. Tu l'as dit, revient blessure, mais est-ce que ça allait trop vite? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, je pense que ça allait trop vite. Surtout, Raikalaz, on s'est rendu compte qu'il est bon quand il joue en profondeur. C'est quand il joue dans l'anticipation, parce qu'il comprend bien, il comprend bien le football. Il a un sens, il a un sens, il a un IQ très développé. Mais quand il est un contre un avec des gars comme ça, tu sais, dans des espaces plus réduits, il se faisait prendre souvent. Puis là, c'est peut-être ça qu'on a vu. Puis c'est pas un gars qui va aller en projection offensive non plus. Fait que je pense que c'était pas son meilleur rôle, surtout en revenant de blessure. Je pense que, dans l'axe, ça aurait été plus intéressant. J'ai pas aimé son match, ça c'est clair. C'est clair qu'il va devoir nous en montrer plus, surtout s'il joue à gauche. Corrales, je sais pas s'il est blessé, mais ce serait intéressant de revoir Corrales latéral gauche. Il c'est pas mon préféré, mais au moins, comme tu disais plus tôt, là, c'est un gars qui monte, c'est un gars qui provoque, c'est un gars qui t'amène le surnombre. Je pense que c'est ça qu'il va falloir. Il va falloir revenir à ça, en fait.
Clairement, clairement. On en reviendra, mais je pense que ça a été beaucoup le trou de poutine pour beaucoup de monde.
Ouais.
Je pense
Ouais.
que c'est assez indéniable dans ce match-là. Binks, honnêtement,
Magnifique.
qu'est-ce qu'on a? Y a rien à dire. Le jeune
Magnifique.
va partir un jour. Tu le
Ouais,
vois
clairement.
que
Clairement.
c'est une question
Ouais.
de temps, une question d'expérience. Il va jouer des minutes, puis le gars va devenir deviendra peut-être pas un partant dans un top tiers d'Europe, mais je pense que c'est un joueur qui est dédié quand même à une bonne carrière. Hein. Tu le vois qu'il y a quand même il y a du foot là.
Clairement, super intelligent. Moi, ce qui m'impressionne le plus de Bing, c'est son calme. Tout le temps. Il est toujours calme, toujours le sang-froid. Tu sais, quand Diop fait sa sortie catastrophique, c'est lui qui sauve la balle sur la ligne. Il fait pas juste la sauver, il la redonne dans les mains à Diop avec sa tête, genre. C'est incroyable. Ça, j'ai vu ça, et moi, j'aurais dû kicker le plus loin possible cette balle-là sans regarder. Même si tu me dis, je suis là, je m'en fous. Là, je la kick le plus, il est tranquillement. Il la met, genre, 18-19. Il m'a énormément impressionné. Balle au pied aussi. Super, c'est comme je l'ai dit, ça va bientôt, hein. C'est trop
Tu vois c'est quoi la différence entre l'Académie de Tottenham et l'Académie de l'Impact, là? Tu vois qu'il y a quand même du
bon.
niveau.
Ouais, clairement, clairement.
Il y a quand même du niveau. Je pense que c'est un jeune homme qui a quand même été bien formé. Puis, voilà.
Ouais, clairement.
Bon, un autre coup de cœur, je pense, de la majorité des fans. Rod Fanny,
Ouais, ça comme.
c'était
C'est pas
correct,
super,
hein?
mais c'est lui qui met pas le pied sur vous, non? C'est lui qui reste un peu derrière, c'est Camacho, un
Ouais.
peu les deux, en fait. Un peu les
Ouais.
deux.
Mais c'est vrai qu'il y a
Après,
deux
je...
fois, il y a deux fois deux frappes dangereuses que Fanny aurait pu sortir plus, mais est-ce que la communication peut-être a fait défaut? Est-ce qu'on veut plus le mettre en libéral plus derrière, puis qu'on met
Ouais.
Camacho et Binks de l'avant, puis que lui va ramasser par la suite? Je sais pas c'était quoi la tactique.
Exact. Et après, est-ce que s'il sort trop vite, il va faire des fautes aussi? C'est vrai que c'est exact. C'est dur, cette situation-là, pour un défenseur, parce que, un de mes amis me dit direct, pourquoi il est pas sorti le tacler, genre. Il dit, comme, si tu sors tacler n'importe qui a la balle proche de ta surface, tu vas soit donner des pénalties ou des coups francs super dangereux. Fait que, tu sais, c'est vraiment cette zone-là qui est un peu bizarre. En fait, l'erreur, c'est qu'il y ait autant d'espace quand il s'est tourné. Dès que le joueur a la balle dos au but, tu colles. C'est là que tu le colles tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être ça, la petite erreur qu'il a faite, qui t'a donné un but. Vous n'avez pas pardonné. Mais bon, je pense pas qu'il a fait un mauvais match non plus. Même Camacho, à la fin, il a fait un tacle exceptionnel. Camacho, c'est des matchs corrects. Ils vont devoir être meilleurs, c'est ça. Mais je pense pas qu'on peut leur mettre vraiment sur leur faute, là.
Non, Camacho aussi qu'on avait oublié en raison de sa blessure. Je pense que on le sait, J'ai l'impression que ça va être un gars qui va avoir une carrière à Montréal exactement comme Cabrera, des gros matchs, des moins gros matchs, des gros matchs. Tu
Ouais.
sais, j'ai l'impression que ça va être un gars comme ça. Honnêtement, en première demi avec Bing, c'était très solide. C'était pas un mauvais match de sa part. Puis Diop, on en a parlé. Écoute, le but, bon, c'est un but.
Ouais,
Je pense
en
qu'il y a
ta
pas.
faveur.
Il n'y a pas beaucoup de gardiens nécessairement qui peuvent anticiper que le gars va pouvoir frapper aussi près. Une belle frappe comme ça. Sa sortie, weird. On ne sait pas ce qui est arrivé, problème de communication. Mais le reste, rien à dire. Je pense que tout est bon. Si on regarde les joueurs qui ont entré dans le match, Lapalainen, c'était. Le gars est encore sur le décalage horaire. Là.
Non, clairement, clairement. On l'a pas vu du tout. Pas vu du tout.
Je me demande qu'est-ce qui fait en sorte que. Honnêtement, il n'a pas eu son opportunité à jouer à l'aile gauche. Parce que c'est un vrai ailier, là, comparativement à
Ouais.
Ryan qui est entre les deux.
Ouais.
Curieux.
Je suis
Curieux.
d'accord. Je suis d'accord.
Kyoto, c'était quand même bien. Je pense
C'est bien.
qu'on a vu son énergie. On a vu
Ouais.
que ça a changé la donne. Puis on a vu le Kyoto, je pense, à certains moments, des flashs des matchs en Ligue des Champions.
Ouais. Mais c'est son genre de match, en fait. Les matchs où c'est physique plus que technique, il aime bien, lui. Il a l'air de bien aimer parce qu'il est physique, hein. Il est très, très physique. Et il est quand même assez technique. Donc, moi, pour ce tournoi-là, je pense qu'il va être très important qu'il y ait.
Non, clairement, clairement. Zach, pas grand-chose à dire. Je pense que c'était bien. C'était pas. Aurait peut-être pu faire mieux, mais en même temps, c'était ça le match. Puis écoute, on va voir mieux. Tabla, Balou, ça a bien été.
Adoré, adoré. C'est le genre de flash qu'il nous a dit, ce gars-là va être bon. C'est le genre de flash que c'est pour ça qu'il est parti au Barça B. Et c'est pour ce genre de flash-là que t'es comme merde, pourquoi t'es pas sérieux, genre? Comme il est fort, genre. Comme il est vraiment fort. Tu sais, dans ce tournoi-là, tu sais qu'on disait tantôt que Boyan ne fait pas la différence, Balou peut la faire en une action. Comme son tir du pied gauche, il sort de nulle part, puis c'est un missile, là.
Moi, j'étais sûr
Ce
que c'était lui,
joueur-là,
man.
je l'ai pas compris ce qui s'est passé. Il l'a mis fort, genre. Il a gardé l'arrêt de justesse, genre. Très bel arrêt d'ailleurs, mais Balou est trop fort. Faut juste que s'il se force, il est titulaire chaque match avec nous. S'il est sérieux, il est titulaire avec nous tous les matchs. Il est super bon. J'espère que le tournoi il va débloquer. Parce que là, on a besoin de lui. Parce que tu vois, des Boyan au Conco, il n'arrive pas à créer quelque chose. Balou, lui, il t'amène des flamèches, là.
Non, c'est clair, c'est clair. J'ai hâte de le voir. Je pense que pour le moment, à cause de son peut-être manque de sérieux, ça va être un super sub hyper probablement un des joueurs que moi je ferais rentrer le plus tôt possible dans la
Clairement.
première vague de changement.
Ouais.
Mais à voir, à voir. Bon, premier match, première défaite, fallait s'y attendre, je pense. Saputo d'or, trop Poutine. Tu vois qui?
Saputo d'or. Wanyama, j'ai bien aimé. Même, je vais donner à Binks, en fait. Binks, moi, c'est lui qui m'a fait genre qui wow, comme il a pas juste fait un bon match, il a fait comme c'est un bon joueur. Toi, Saputo d'or.
Je pense que c'est la même chose. Je pense que le débat
Ouais.
était probablement entre les
Ouais, hein, ouais.
deux performances. Mais pour moi, Bing, c'est juste que je trouve qu'il en a donné un peu plus. Wanyama, c'est que ses capacités sont élevées, mais peut-être aurait pu en donner un peu plus physiquement. Mais je
Ouais.
pense que c'est plus. Il sait gérer aussi, là. Je pense qu'il y a un peu ça aussi.
Ouais. Même offensivement, je pense qu'on va avoir besoin de lui.
Parce qu'on l'a vu, là, on l'a vu dès qu'il a levé la tête, là, il a fait des belles passes, il a fait des belles relances,
Ouais.
il a bien fait ça, mais c'est ça.
Entre Poutine, moi, j'ai un des trois devant, là. Que ce soit aujourd'hui, Boyan ou au concours. Mais je donne à Boyan juste parce que c'est dans le rôle qu'il a, il doit être meilleur. On compte trop sur lui. On a
Ouais.
besoin de lui. Puis il a absolument rien créé. Et puis c'est inacceptable. Pour le statut de joueur qu'il est, pour l'importance qu'il a dans notre équipe, on a besoin de beaucoup plus de Boyan. Et c'est pour ça que je donne un trop de Poutine. Après, est-ce qu'on n'a pas trouvé son rôle encore? Je pense que oui. C'est quoi son rôle? C'est ça la question, c'est ça le problème, je pense.
Non, clairement, clairement. C'est clair. Puis écoute, si je repense à chaque match qu'il a joué depuis le début de cette saison, il y a eu une occasion de marquer à chaque match. Il a pas marqué. Ça n'a pas été prolifique son truc, mais je ne sais pas si tu te rappelles les échappées, à un moment donné, il y avait une occasion de là, tout ça. Il avait fait le geste pour faire la différence là, dans ce match-là. manquait quelque
Ouais,
chose.
puis ses occasions, il les avait quand il était neuf ou derrière le neuf, tu sais, dans l'axe. À l'aile, il n'y a jamais.
Quand il permutait avec Routier,
Ouais, exactement, exactement. Je
là,
pense qu'on va devoir revenir à ça.
À voir. Bon, pour moi, c'est clair, même chose. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Docteur Foot nous a envoyé quelques questions. On le salue. J'espère que tu vas bien, docteur. La première question, c'était, Boyan, est-ce encore un espoir ou on tire la plug?
La plaque, c'est sévère encore. Là. Je pense qu'il faudrait au moins lui laisser cette année. C'est bizarre parce qu'à quoi ça va ressembler cette saison, mais mettons, si on a une saison, il faudrait lui laisser cette année. Mais pour moi, c'est pas un espoir. Il n'y a plus l'âge d'être un espoir vraiment. Mais je pense que, en fait, c'est un espoir voir qu'il va finalement être bon. Il ne faut juste pas s'attendre, en fait, à une superstar. Il faut juste pas s'attendre. C'est pas ce gars-là. Ça va jamais être ce gars-là. Mais ça dépend de l'image qu'on a de lui. Je pense que ça peut être un très bon joueur dans l'équipe. Mais c'est pas lui qui va faire gagner des matchs tout seul. Ça va jamais être ce gars-là. Si on pense que c'est ce gars-là, tirez la plug là-dessus.
Si je me rappelle bien, c'est un contrat de 18 mois, je pense qu'il avait signé avec un an d'option, si je me rappelle bien. Donc, on faut le laisser finir l'année, puis s'il est capable de prouver, on verra. Mais
Ouais.
c'est juste que je comprends pas comment tu peux l'utiliser. C'est pas clair
C'est ça le
comment tu
problème.
peux l'utiliser dans un schéma à Thierry qui veut que ses ailiers soient des joueurs percutants. Tu sais, c'est des gars qui vont avoir le ballon, qui vont centrer. Je vois pas où Boyan figure là-dedans. À part pour récupérer les ballons des défenseurs qui vont. Mais faut jouer cette game-là. À voir. Jackson Hamel sur le banc, on ne l'a pas vu dans ce match-là. Est-ce que tu juges que c'est peut-être une erreur de Thierry Henry de ne pas l'avoir amené dans la mêlée lorsqu'il n'est pas tiré de l'arrière par un but?
Oh, une erreur, je sais pas. Je pense que j'ai mieux aimé, en fait. Même, je pense que dans ma liste, quand je perds par un but, je rentre Balou, je rentre Lassie, je rentre Kyoto avant Jackson. Fait que je pense que ça a été respecté, en fait. Après, ce qui est cool quand t'as 5 changements, c'est que dans les prochains matchs, tu peux peut-être en faire entrer, mais après, Routy, il y a eu sa chance. Il y a eu erreur, je dirais pas une erreur, mais non, je dirais pas une erreur, en fait. Je pense que ça m'a pas choqué, en fait. Tu sais, Balou est rentré, il a créé des chances, Kito a créé des chances. Fait qu'à partir de là, c'est pas une erreur.
C'est clair. Raïtala partant après être revenu d'une blessure, ça c'est sûr que bon, on ne connaît pas la situation de Corrales. Puis
Ouais, c'est ça, en fait.
Raïtala, c'est quand même le capitaine de ce qu'on peut comprendre qui a été choisi par l'équipe d'entraîneurs. Donc ça semble être un leader. On veut peut-être lui donner l'opportunité de se prouver.
C'est clair. C'est
Je sais
clair. Je
pas.
pense que c'est ça l'explication. Après, comme tu dis, c'est pas l'histoire de Corrales. C'est le gars est
C'est pour
blessé.
ça. Je sais pas. Un des gros débats qu'il y a eu après le match, c'est est-ce que Wanyama et Piatt ont été utilisés dans la bonne chaise? On en a parlé un peu. Wanyama a comme été un peu un 6, un peu un 8, un peu un 6,5, un peu. C'était un peu de la salsa, tout ça. Est-ce que réellement ça se peut un milieu à deux avec Kleider, Wanyama et peut-être Piatt pour être derrière ou. Je
Je pense
sais
qu'on va
pas
revenir à
comment.
3.
Ouais.
Je pense qu'on va revenir à 3 parce que, après, comme tu as dit, déjà devant, on n'a pas forcément un 10, à moins qu'on joue en
Mais
4-4-2.
il faut jouer à quatre défenseurs. Si on
Ouais,
rentre
non,
dans.
clairement.
Donc, si on fait ça, pour l'instant, l'impact a eu dans ces matchs qui ont eu du succès, c'est les défenseurs qui faisaient la différence en montant sur le terrain, en créant un surnombre. Donc,
Ouais.
est-ce que tu penses que Thierry Henry va mettre cette idée-là de côté pour faire rentrer un Wanyama dans une autre position en même temps que Piet?
Parce que le problème, c'est que si tu joues à 3 milieux avec 3 défenseurs, tu peux le faire. C'est juste que tu as juste 2 joueurs offensifs. Tu joues 3-5-2. Tu as juste deux. Les 2 pointes, c'est le seul gars offensif que tu as. Pour un tournoi comme ça pourrait être intéressant. Henry a joué comme ça, je pense, quand il a joué le 0-0 à Austin Olympique. Tu peux faire ça, c'est juste que ça va pas être excitant pour vous de 1. Puis de 2, c'est qui les 2 pointes que tu mets devant? Théo Routy-Mann, sont tous ceux qui vont te faire gagner le match? Ça, c'est pas. C'est difficile. Après, t'as plus d'ailier point, là. T'as juste tes latéraux qui vont. Sans ailier, c'est chaud.
À voir. Je pense que, docteur, on ne peut pas répondre à cette question-là sans voir au moins un autre, au moins avant la fin du tournoi, voir d'autres échantillons de poignement pour voir qu'est-ce qu'il peut donner. Mais pour l'instant, c'est dur. C'est vraiment, je pense que ça va être un gros débat à voir parce que Piet a encore sa place, pas par manque de talent ni par manque de résultats, mais dans la façon que Thierry veut faire son effectif. Je sais pas, je trouve que c'est deux joueurs qui sont pas nécessairement complémentaires. Fait que je sais pas, j'ai hâte de voir. Sa dernière question de Dr. Foot, nos playoffs ou pas?
Mais là, moi j'allais dire nos playoffs le premier match, mais là, avec tout le bordel qui arrive avec Toronto, je pense qu'on va passer. Je pense pas que Toronto, ils vont tout faire pour essayer de gagner ça. Ils vont faire full dans le tournoi. Donc, non, je pense que playoffs.
Ah bon, moi
C'est difficile, même.
j'ose pas me prononcer parce que les premiers matchs, j'en ris comme oh, ok, oui, il y a une chance. Puis là, tu regardes ce match-là, tu te dis, ok, il y a tellement de choses à prendre en contexte, là, mais oh, là, tu fais, oh, ok, je sais pas, tu sais.
Attends, moi je l'ai compris dans le sens qu'on passe à la prochaine ronde du tournoi. Lui, il voulait dire playoff comme à la fin de l'année. À la fin
Probablement.
de l'année, il est trop tôt, là. Trop tôt, j'ai aucune idée. Mais je pense qu'on passe là pour la deuxième phase du tournoi.
Je pense qu'il fait référence au fameux no playoff de Nilton, mais on va y revenir, docteur, assurément. Terminons ce segment-là, écoute, avec la nouvelle, Patrick Leduc qui a été annoncé, disons, bon, c'est pas clair si c'est le remplaçant direct de Philippe Lafroy, mais bon, on va occuper certaines de ses fonctions, du moins. On sait que bon, s'occupait quand même déjà un peu des programmes, surtout de l'aspect administratif de la chose au niveau de l'académie. C'est un gars aussi qui s'occupait un peu du côté administratif aussi de l'équipe première. J'imagine que ça, on va intégrer ça dans probablement des tâches de Vassili ou bon, à revoir, là. Le Duc, comment tu vois cette personne-là en tant que, disons, mettons qu'on se concentre seulement sur l'aspect éducateur, est-ce que tu penses que c'est un gars qui va être capable de donner des résultats, comme on en a parlé dans le dernier podcast, des gars qui vont jouer dans l'effectif première comme étant des partants? Comment tu vois cet individu-là?
Ça m'a surpris un peu, honnêtement. Surtout quand l'Impact disait vouloir restructurer le tout un peu. Parce que Patrick l'a dit que ça va être ça, sa tâche, peut-être, vraiment, de restructurer l'académie. C'est une grosse tâche. C'est très difficile de passer après Philippe Lafra aussi. Moi, je m'attendais à un gars de Bologne qui allait gérer l'académie aussi. Fait que là, l'a dit que ça m'a un peu surpris. Je le connais pas en tant que directeur, formateur. C'est dur à dire. Après, il connaît le soccer au Québec, là. Il a coaché les jeunes longtemps. Il est impliqué partout. Fait que la connaissance, on peut pas dire qu'il connaît pas, on peut pas dire que c'est un gars qui passe sa place, en fait. Mais le mettre après la froid, c'est un gros challenge, puis j'ai hâte de voir les changements qui vont être faits. Et ça a porté ses fruits, mais c'est un gros changement, en fait. On n'attendait vraiment pas à voir le Duc aussi vite. Je sais pas toi ce que
Non.
t'en penses.
Non, clairement, puis est-ce que je suis surpris? Non. Parce que
Ouais,
c'est un gars
surtout
de
n'est
la
pas surpris,
maison.
mais
C'est un gars de la maison. On a toujours fait confiance au gars de la maison. Puis honnêtement, le Duc a été un bon soldat, je pense, depuis qu'il est plus joueur avec l'équipe. Je pense qu'il a tout fait. Puis je regarde, tu sais, honnêtement, je l'ai connu beaucoup, moi, quand il a commencé à être entraîneur dans toutes les associations de jeunes et tout ça. Il a été au Collège français, il a été. Je pense avec Brossard, des trucs comme ça. Puis après ça, bon, on l'a vu dans l'équipe canadienne, dans les équipes juniors, blablabla. Mais quand j'ai regardé son CV, le Duc a chapeauté le lancement du Centre d'identification et de perfectionnement de l'Impact de Montréal, un programme de développement de haut niveau pris en charge par l'Académie du club et ses éducateurs. Fait que moi, je me dis, si le gars connaît déjà toutes les gens sur place, a déjà une bonne, tu sais, par ses fonctions actuelles, a déjà quand même une bonne vision de ce que représente l'académie. Je pense que c'est un bon gestionnaire et peut-être un bon éducateur, mais c'est sûr, c'est pas le CV d'un gars qui fait ça depuis 25 ans non plus, donc.
Attends, c'est ça que moi, mon interrogation est là. Tu sais, Lafroy, c'est un gars qui fait son métier depuis des années, qui a des contacts incroyables. Et là, je sais pas. C'est un peu surprise. Et... En fait, je ne sais pas quoi penser. En fait, je pense que c'est les résultats qui vont venir, mais je ne sais pas vraiment quoi penser. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. À
Comme
quel point c'est une bonne chose.
éducateur, j'aurais vu plus Bernier personnellement, mais
Ouais.
peut-être ce sera un autre rôle un peu plus tard, parce que Bernier, c'est un crack, là, tu le vois, tu l'entends parler de foot, c'est
Ouais.
ridicule. Mais le Duc est aussi un excellent éducateur. Les
Clairement,
frères de
clairement.
ma copine l'ont eu comme entraîneur, puis ils n'ont que des bons mots à dire. Fait que, on verra, je pense qu'il faut le supporter, faut voir ce que ça va donner. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, l'académie n'est pas cancellée. C'est déjà une bonne nouvelle en soi.
J'avoue, c'est vrai que ça faisait peur, c'est ça.
Faut le voir comme ça. On salue le geste d'Henri qui a mis son genou au sol pendant le premier match, pendant 8 minutes 46 secondes, pour ceux qui savent ce que ça représente, quand même un geste intéressant. Et avant de rentrer dans les sujets hors MLS, juste terminer, la MLS va probablement permettre aux équipes, dans le fond, que des fonds d'investissement investissent dans les franchises de façon minoritaire. Honnêtement, je ne sais pas à quel point c'est une partie du foot qui vous intéresse, le foot business, mais c'est quand même une grosse nouvelle. Ce serait une des premières ligues en Amérique du Nord à permettre ça. Puis c'est surtout une possibilité aussi d'ingérer des fonds que les propriétaires, des fois, n'ont pas.
Ouais.
Des fois, il y a des mauvaises années. Puis je pense à un Joey. Je ne sais pas. Peut-être Joey avec un peu d'argent qui n'est pas la sienne, là. Ça pourrait être intéressant. À voir,
Clairement.
mais je pense que c'est une bonne nouvelle du côté business de la Ligue. Encore des fonds qui vont rentrer. On ne sera pas obligé de passer nécessairement par encore tout le temps des franchises, là, puis d'en avoir 150 pour
Ouais.
permettre aux propriétaires actuels, parce qu'on le sait, là, quand une franchise arrive, il y a de l'argent qui va aux propriétaires actuels par différents mécanismes. Donc, à voir, je pense que c'est une grosse nouvelle. Alec, une nouvelle que tu suivais beaucoup, City. Ils ont fait face à des accusations et tout ça. Là, il y a eu les appels. Et là, de ce qu'on comprend, City pourrait être présent en Ligue des Champions.
Ouais, c'est la rumeur d'un journaliste anglais qui disait que selon ce que lui entend, ce que lui comprend, lundi, c'est le verdict, City serait blanchi ou aurait ouais, blanchi complètement. Enfin, ça, c'est quand même fou. C'est des peines réduites. Moi, je crois plus aux peines réduites, mais selon ce que lui rapporte, c'est qu'ils vont être blanchis. Et donc, pour jouer en Ligue des Champions, parce qu'il y avait eu des conséquences, une punition, whatever, qui allait être banni pendant 2 ans de la Ligue des Champions, qui est une énorme nouvelle. On parlait de Bruyne. De Bruyne va partir, Agüero va partir, tous les gars vont partir. Pep aussi.
Parce que tous les gars qui sont là actuellement, comment tu fais pour attirer un joueur à City sans Ligue des Champions, je veux dire?
Mais surtout, les gars qui sont là, ils ont gagné le titre, back to back. Il manque juste la Ligue des Champions. Donc là, tu leur dis 2 ans de ta carrière, t'as pas de Ligue des Champions. C'est énorme. Donc là, ça serait vraiment un gros. Puis après, honnêtement, ça arrange tout le monde, surtout en pandémie, que Manchester City sont en Ligue des Champions. On va pas se mentir là, pour les sponsors et tout ça. Là. Il faut qu'ils soient en Ligue des Champions. Et ben, money talks. Donc après.
Beaucoup de gens font évidemment le raccourci à dire, ouais, on sait justement l'argent, corruption, est-ce qu'il y a complot justement parce qu'il y a tellement d'intérêts financiers derrière ça? Est-ce que tu penses que ça a réellement un impact?
Je n'irais pas jusqu'à dire corruption. Je pense qu'après, ils ont des avocats assez brillants pour le positionner que ça, whatever, là, qu'ils ont fait, c'était légal, puis que 2 ans de Ligue des Champions, financièrement, c'est catastrophique pour tout le monde. Fait que c'est une peine beaucoup trop folle, une peine beaucoup trop élevée. Ça, je pourrais l'imaginer. Tu sais, le Real Madrid, ça leur est arrivé souvent. Le Barça aussi. Le Barça a été suspendu, je pense, 6 mois de mercato, mais au début, je pense que c'était 2 ans aussi. Chelsea aussi, je pense qu'ils ont été un an et demi. Donc, tu sais, les gros clubs, ils s'en sortent tout le temps. Après, je pense que j'irais pas à dire corruption, mais des bons avocats.
Mais c'est justement, c'est toujours les gros clubs qui s'en sortent. Hein.
Ouais.
C'est toujours ceux qui ont des gros portefeuilles pour influencer le reste qui semblent toujours gagner. Mais écoute, regarde.
C'est clair.
Je pense
C'est clair.
que ça va toujours être comme ça. Avant de passer en Ligue des Champions, je voulais juste souligner une nouvelle. Rien ne va plus à Arsenal, mais Aubameyang, c'est quand même le premier joueur qui fait 2 saisons consécutives de 20 buts. Je pense que c'est depuis Henry. Le gars est fort. Le gars est fort dans
Très
une
fort.
équipe qui est vraiment compliquée à jouer en ce moment. Salutations à lui. Avec la Ligue des Champions, on a eu des petites nouvelles à savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Si on y va, dans le fond, avec les matchs qui restent à jouer, comment tu vois ça? Est-ce que Lyon va réussir à remporter son pari et passer à la prochaine étape?
Ça fait du... Ils ont gagné 1-0 à
À
Turin
l'aller,
aussi.
ouais.
Là, il y a pas de fans,
Donc,
donc ça change un peu. Hein. Attends, ils ont gagné
c'est ça.
1-0 en France. Ouais, sûrement.
Oui, en France, parce que là, ils vont aller
Ouais.
jouer à Turin le 7, vendredi le 7 août. Donc, ça sera la
Là,
reprise à ce moment-là de la Ligue des Champions.
j'ai hâte de voir Lyon qui commence des matchs amicaux bientôt, que la Ligue 1 reprendra pas. Ça, moi,
Parce
je sais pas
que
si la Juve.
la Juve, ça fait quand même quoi? On est rendu à 7 matchs, je pense 8 matchs depuis la reprise.
Ouais.
On enchaîne là.
Ça joue pas super bien, hein, à Juventus cette année. C'est pas rassurant. Hier, ils font 2-2, mais c'est deux pénalties qui sortent de nulle part. Pas, ils n'ont pas dominé et eu deux pénalties.
Ouais.
Ils ont essayé de lancer la balle dans la surface et ils ont eu deux pénalties. C'est l'Atalanta a mieux joué qu'eux. Ça arrive souvent, la Juventus cette année. L'autre équipe joue mieux qu'elle. Mais après, bon, elle a des individualités très, très fortes.
Ouais.
Donc, je pense contre Lyon, ça va être ça. Je pense que Lyon a un coup à jouer, mais à quel point tu peux contenir les Dybala, Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Bentancur pendant 90 minutes. Ça va jouer là-dessus, mais Lyon peut faire l'exploit. Ils ont l'équipe pour, en
Clamage.
plus. Quand ils ont battu City, là, ils ont l'équipe pour défendre puis attaquer contre-attaquer.
Je sympathise avec Cristiano. Je lui souhaite sa fameuse Ligue des Champions avec une autre équipe que le Real, mais en même temps, ce serait cool de voir Lyon passer. Puis l'équipe qui joue même pas en championnat, on parlera pas du PSG, mais l'équipe qui joue même pas en championnat elle serait capable de battre une équipe qui enchaîne. J'aimerais savoir ça. L'autre gros match le vendredi 7 août également, ça va être Man City contre Real Madrid. City a gagné le match aller 2-1 et ça va se passer à Manchester. Ça va être un gros duel. Real qui est sur une bonne lancée avec un Sergio Ramos qui est tout feu tout flanc. City qui a eu un petit revers dernièrement, mais ça va être tout un match, je pense.
Ouais, c'est Ramos qui avait pris rouge à l'aller, fait qu'il va pouvoir jouer le match retour. Fait que ça va faire mal au Real Madrid parce que comme tu dis, là, leur homme providentiel, c'est Sergio Ramos. Il a mis, je pense, 4 buts, 5 buts depuis le retour. Incroyable. Des pénaltys, mais il les a mis. Puis sans Ramos, c'est difficile. Après, Militao, c'est un bon défenseur. Mais il va manquer peut-être ce leadership-là. Il va manquer beaucoup.
Cette
C'est excellent
âme
comment.
de vaincre.
Exact. Exact. Surtout dans un match pas de fans, où tu as peut-être besoin de quelqu'un de te rappeler que c'est quand c'est 8e de finale de Ligue des Champions. Je vois City favori. C'est drôle parce qu'avant la pandémie, je voyais un Real les renverser, même sans Ramos. Mais là, City, le championnat est joué. Il n'y a que la Ligue des Champions. Tu vois, Pep fait tourner énormément. Les gars, ils sont à l'entraînement. Qui perdent ou qui gagnent, c'est l'entraînement. Ils ont, je pense, 18 buts de suite à la maison sans prendre un, quelque chose comme ça. Tellement fou. Fait que je pense que City va être les favoris pour moi. Même si le Real, tu peux jamais dire Real est out, mais pour moi, City sont favoris.
Je sais pas si je dis n'importe quoi, mais on dirait aussi la cadence en Angleterre est un peu plus rapide. Hein. On joue, je pense, un peu plus rapproché. Il y avait peut-être un peu plus de matchs à jouer. Ou... Je sais pas,
Ouais,
j'ai
ok.
l'impression qu'en Angleterre, on joue peut-être les matchs un peu plus rapprochés. Peut-être l'équipe, justement, j'ai vu. Deux matchs consécutifs de City où l'effectif était carrément pratiquement pas le même. Là, tout le monde avait tourné. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va être, je pense qu'on va conserver nos énergies pour le vendredi 7 août. Puis, on va mettre tout. Mais moi, je vois City passer à fond la caisse. Les autres matchs qui restent à compléter, c'était Bayern-Chelsea. Bayern qui a remporté 3-0 le match aller le samedi 8 août. Bayern. Tu vois pas de surprise de Chelsea là, Bayern va passer facilement.
Ouais. Bayern, pour moi, c'est les favoris.
À Munich en plus. Ouais, tu les vois
Ouais.
favoris?
Ouais, pour moi, ouais. La fin de saison qu'ils ont fait, Lewandowski qui a 50 buts, qui marque chaque 15 minutes, trop fort.
Ouais. Lewandowski,
Trop
c'est la
fort.
saison de sa vie, on sait cette année, là, c'est vraiment
Ballon d'or.
exceptionnel.
Je pense qu'ils sont ballon d'or cette année. À moins que Messi gagne la Ligue des Champions, parce que Messi, il a 22 buts, même pas décisif, genre, c'est n'importe quoi.
Ouais.
Mais à moins qu'il gagne la Ligue des Champions, qui m'étonnerait, là. Mais je pense que dans le fond, s'il la gagne, il va la gagner à lui tout seul parce que l'équipe est pas top. Mais à moi, ça m'étonnerait. À moins que Messi gagne la Ligue des Champions à lui tout seul, Lewandowski, Ballon d'Or. S'il y a le championnat et la coupe, s'il fait la Ligue des Champions en plus, c'est à lui. Hein.
Ce serait cool. Ce serait cool d'avoir un petit Davis non. aussi. Davis gagner ça, ce serait intéressant. Probablement, le match qui t'intéresse le plus, c'est le retour de Barcelone-Naples. C'était 1-1 à l'aller. Barcelone-Naples à domicile pour Barcelone, au moins il y a ça. Il n'y a pas de fans, mais au moins on va jouer en terrain connu. Naples qui, c'est comme ça, mais on ne sait jamais avec Gattuso. Des fois, on peut arriver avec une équipe qui va être hyper motivée. Est-ce que tu as peur?
Oui, comme dans tous les matchs du Barça, j'ai l'impression qu'ils se compliquent toujours la vie. Puis Naples, ils sont bons, ils ont des arguments pour jouer contre le Barça. Ils ont des flèches aussi, ça va très vite devant. Le Barça, c'est lent derrière. Donc, si le premier match, Griezmann, il avait fait le 1-1, mais c'était chaud aussi. Je pense que Naples aurait mérité de gagner. Donc, tout peut arriver là aussi. Je vois pas. En plus, Gattuso, il est bon dans les grands matchs. Il inspire vraiment l'équipe. Je pense que la police, il avait battu à Juve, je crois. Donc, en Coupe d'Italie, bref, en finale, en Coupe d'Italie. Fait que, il inspire ses joueurs dans les grands matchs. Fait.
Puis, eux, par ça, je pense qu'ils sont déjà qualifiés pour l'Europe. Donc, le championnat, c'est un peu moins important, disons.
Ouais.
Donc, je pense qu'ils vont y aller à fond là, pour ce match-là.
Clairement. Donc, ce match-là va jouer sur les qualités individuelles. C'est que ça va être soit comme Mertens, le premier but qui est magnifique. Si lui, il me signe, il peut faire la différence, mais s'il peut faire la différence. Je pense que ça va être un bon match, je pense que ça va être serré, en fait. Ça va être beaucoup plus serré. Ça va pas être le Barça qui a 80% de la balle, puis Naples qui défend, puis qui se croise les doigts. Là. Ça va être serré comme match. Je pense que ça va être un des très bons matchs, en fait. Mais oui, j'ai un peu peur, quand même.
À voir, tu sais, le gagnant de ce match-là va jouer carrément une semaine après. Probablement contre le Bayern, donc ça va être chaud. On reparlera des matchs de quart de finale un peu plus tard dans le mois, mais ça va être chaud. Surtout sur un match, on sait que bon, il y a pas d'aller-retour pour les quarts de finale. Hâte de voir, vraiment.
Clairement. Ça va être cool sur un match Ligue des Champions.
Ouais, pour vrai, cette année, surtout avec les championnats qui tournent, ça va être différent. Puis j'aimerais ça une surprise si tu parles du Bayern. Je pense que, bon, clairement, là, sont assez favoris, mais un Lyon qui se rend jusqu'au bout, ce serait vraiment, vraiment cool pour le foot. Puis tout le monde ferait comme, oh, OK. Tu sais, c'est cool, un Real qui gagne, mais.
Ouais, parce que le côté de tableau du PSG, il me semble que c'est toutes des équipes qui ne sont jamais allées en finale.
Ouais, ben là,
le PSG, il y a Atalanta.
Exact. Le PSG affronterait Atalanta. Puis par la suite, si jamais il y avait à gagner, ce serait contre Leipzig ou l'Atlético.
Ah, mais l'Atlético est allé en finale.
Ouais.
Maintenant, tous les autres n'ont pas allé en finale, me semble, de leur histoire. Le PSG, je pense pas qu'ils sont en finale de la Ligue des Champions.
Non.
Ça, c'est cool quand même. T'as un côté de tableau que t'as. C'est clair qu'on va avoir une surprise, sauf si c'est le PSG. Là. C'est pas vraiment une surprise, mais quand même.
Ça va aller assez vite. T'sais, tu regardes là, les quarts de finale, ça commence le 12, ça finit le 15, puis la finale est déjà le 23 après. Là. Donc, avec les matchs de championnat qui s'enchaînent, probablement que les fédérations vont s'ajuster et vont reporter ces matchs-là, mais ça reste que c'est quelque chose de chaud quand même. Évidemment, on va reparler parce que c'est clair que ça va être excitant et qu'on va avoir droit à du foot intéressant à ce moment-là. Alec, on entre dans le débat. Le débat de cette semaine a été motivé par, dans le fond, un anniversaire. Ça fait 19 ans que Zinedine Zidane a été vendu pour 75 millions à l'époque. C'était incroyable de tuer au Real. Le début des Galacticos et tout ça. Bon, Zidane était déjà quand même un joueur dominant avec sa Coupe du Monde et l'Euro, blablabla. Ça m'a fait penser, dans le fond, au débat de cette semaine, qui est quel est le transfert où l'équipe en a eu le moins pour son argent. C'est sûr qu'on peut penser à des transferts assez récents, qu'il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés, puis on peut justifier peut-être qu'ils ne valent pas cet argent-là. Mais je pense surtout à des transferts où l'équipe a acheté un joueur puis on n'a jamais eu pour son argent parce qu'on s'entend que même en 75 millions en 2001, Je ne sais pas ce que ça représente aujourd'hui, mais c'est clairement en haut de 100 millions.
Ouais, clairement.
C'était Zinedine Zidane qui a poursuivi sur sa lancée, qui a été un joueur dominant encore pour un bon moment par la suite. Mais je te laisse commencer. C'est qui les noms que tu as eus là, en faisant tes petites recherches dans ta mémoire?
Ben, clairement, Barça Coutinho. Je veux dire, 160 millions pour deux demi-saisons ou une saison et demie, puis après, il s'en va en prêt. Tu n'as même pas récupéré un petit peu de cet argent-là, tu le prêtes parce que personne ne veut l'acheter. Ça, c'est catastrophique. Tu n'as rien donné. Puis, c'était pas juste ça, c'était l'argent de Neymar, l'argent du départ de Neymar. Fait que, en plus de ne pas avoir eu de l'argent de son transfert, tu as quand même perdu Neymar sur le terrain. Tu n'as rien remplacé, ni sportivement, ni financièrement. Ça, je pense que ça va passer comme un des plus gros flops de l'histoire du foot, ce transfert-là.
Tu penses, ouais. Mais il y a encore la chance de se rattraper. Là.
Ouais, clairement, clairement.
Bon, là, de ce qu'on comprend, le Bayern ne veut pas continuer un prêt avec lui. Tout ça, je pense qu'il serait obligé de retourner au Barça. C'est un peu ambigu.
Ouais, parce que l'option d'achat à 110 millions, mais clairement, Bayern ne va pas lever ça. Mais après, à ce deux transferts, moi, je m'appelle Andy Carroll à Liverpool. À l'époque, c'était un énorme transfert de 40 millions. Là.
Ouais.
Torres à Chelsea, 60, 65 millions. Même si leur donne comme une Ligue des Champions, quand même. Mais tu sais, ça tourne à beaucoup plus. Là.
Ouais, moi aussi, j'avais Andy Carroll à l'époque. Ouais. C'était 36,9 millions de pounds, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, la même année, Suarez avait coûté 22 pour Liverpool.
Ça, c'était fou.
Quand tu regardes,
à cette époque-là, c'était 20, 25 millions, 30 millions les 9 gens. Là, lui, il arrive ouais. 40 millions, 40 à ça.
Ouais. Surtout pour ce qu'il a donné, c'est une catastrophe. Mais pour moi, le trade qui a fait le plus mal au Barça et qui a aidé le plus la Milan, et j'adore cette c'est Zlatan. Zlatan, ouais. Si vous vous rappelez bien, je pense en 2009, Zlatan est acheté de l'Inter Milan pour 50 millions d'euros et Samuel Eto'o.
Ouais, ça aussi, c'est un scandale.
Et tout le monde sait que ça a été ordinaire au Barça et a été vendu un an plus tard, a été prêté à l'AC Milan par la suite et a été vendu après une saison au Barça. C'est pour 24, je pense, millions. Une énorme perte sèche pour un joueur qui va ultimement devenir il va devenir une légende, c'est clair, mais cette époque-là de sa carrière, est-ce justement, toi qui suivais à ce moment-là, est-ce que tu penses que c'est une erreur de casting, Zlatan, à ce moment-là, ou c'était juste trop un connard?
Je pense que c'est une erreur de casting de personnalité, en fait. Lui, il n'a pas aimé comment on lui parlait, puis ça l'a clashé direct. Et c'est dommage parce que sur papier, c'est une brillante idée. C'est brillant. Mais après, le problème, c'est qu'il est arrivé quand Messi a explosé en faux neuf. Parce que personne ne pensait que Messi allait mettre 75 buts par année. Là. Personne ne pensait ça. Là. On pensait qu'il était peut-être 20-30, puis 20 passes décisives, 15 passes décisives. Tu sais. Il a commencé à en mettre 70, puis c'était comme, OK, on peut plus avoir un neuf alors. Fait que Zlatan s'en va, puis tu prends Villa. Fait que juste le fait d'avoir pris David Villa après, ça l'a sauvé ça. Ça l'a sauvé ce transfert-là. Parce que Zlatan, c'était malheureusement un échec. Même s'il met quand même 20 buts, je pense, sa première année. Mais ouais, c'était décevant. Tu sais, je veux dire, sur papier, c'était genre Kevin Durant qui arrive au Golden State Warriors. Là. Je veux dire, c'est une équipe incroyable. Tu rajoutes Zlatan en plus. Un gars, tu sais, à l'époque, tu disais, ouais, Barça, sont bons, mais ils sont petits. Une personne qui est grand, tu arrives avec le grand gars qui est aussi talentueux que les petits, qui met des buts n'importe où. Le Barça, avant, on disait tout le monde qu'on disait des passes jusqu'à temps de rentrer dans le but. Lui, il mettait des tirs de 30-40 mètres. Il dit, c'est bon, ils sont inarrêtables. Mais ça n'a pas marché. Puis, puis l'achat de Milan là-dessus brillant, hein, 24 millions de là-dedans.
Ouais, puis c'est cette époque-là qui est la dernière grosse époque de l'AC Milan. C'était un beau moment. C'était Berlusconi encore qui était encore à la tête de cette équipe-là. Mais moi, c'est surtout quand tu regardes aussi la suite de Samuel Eto'o à l'Inter, quand tu sais ce que Samuel... je ne sais pas ce que ça... J'ai cherché un peu tantôt pour savoir c'était à peu près quoi la valeur de Samuel Eto'o à ce moment-là. Mais de ce que je comprends, là, le 50 millions d'euros plus Samuel Eto'o, c'est comme si tu donnais 90 millions pour Zlatan puis tu le vendais 24 deux ans plus tard.
Un an plus
Pour
tard,
cela,
c'est juste cette année, hein?
pour cela, ouais, mais c'est ça, mais ils l'ont prêté, puis après ça,
Ah, ok,
l'ont acheté, mais dans le fond, c'est vrai, c'est pour une saison, pour un joueur de cette qualité-là, puis après ça, la carrière qu'il a, je sais pas si peut-être on aurait pu
Je
être
me
plus
rappelle en
patient
plus là,
là-dessus.
je me rappelle en plus de 24 millions. C'était sur 2 ans. C'était 4 versements de 6 millions. Sur
Classique
2 ans.
d'Austin, ça.
Pour Zlatan. Incroyable. Incroyable.
Puis
Bon,
après ça, il
Marseille,
fait
c'est de l'avoir
des.
solide.
Ah, ouais. Puis après ça, Sam Eto'o, si je me rappelle bien, il gagne la Ligue des Champions un peu plus tard.
L'année d'après, la même année que Zlatan arrive, Eto'o, il fait le triplé et c'est eux qui sortent le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Incroyable.
Je pense que c'est le karma. C'est clairement ça. Écoute, Alec, beaucoup de plaisir aujourd'hui. Malheureusement, on a dû parler d'un match assez décevant. On va souhaiter que celui de cette semaine soit mieux. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bon foot, puis j'espère que vous allez vous régaler avec tout ce qui se passe.
Ciao.
Ciao, Alec.
Buenos dias, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.